Étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Septième et dernier chapitre. Le procès de Jeanne d'Arc et l'autorité ecclésiastique. Le procès de Jeanne d'Arc, tragédie lamentable qui aboutit à un bûcher, a soulevé partout d'unanime réprobation. Et véritablement, c'est une honte pour le clergé et pour la France qu'il se soit rencontré des prêtres et des Français capables de condamner au feu une sainte qui avait sauvé son pays. Double forfait de prêtres juges trahissant la justice et souillant de sang leur caractère sacré. C'est une tache dans l'histoire de l'Inquisition et de l'Université de Paris. Nommons les principaux coupables. À la tête de ce tribunal inique est Cochon, évêque de Beauvais, qui siégea comme juge pendant tout le procès. Il représentait l'autorité diocésaine qui intervenait concurremment avec l'Inquisition pour la répression des crimes contre la foi. Il avait pour promoteur Jean d'Estivet, dit Bénédictite. Viennent ensuite les représentants de l'Inquisition. Jean Granerand, inquisiteur général en France, qui ne siégea point au procès, mais y délégua de sa part frère Jean Magistri, vice-inquisiteur, qui à partir du 15 mars 1431, siégea comme juge et nomma au nom du Saint-Office le promoteur, l'huissier et les autres officiers déjà nommés par l'autorité diocésaine. Depuis le 15 mars, l'affaire se poursuivit au nom de l'Inquisition, et c'est contre les inquisiteurs en première ligne, puis contre les officiers de la cour épiscopale, que les parents de Jeanne intentèrent le procès de réhabilitation. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Voir au procès de réhabilitation. La sentence d'absolution. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Et c'est contre les inquisiteurs en première ligne, puis contre les officiers de la cour épiscopale, que les parents de Jeanne intentèrent le procès de réhabilitation. L'Université de Paris en masse prit part à cette affaire. 5 de ses recteurs et une trentaine de ses docteurs assistèrent aux interrogatoires. En outre, le conservateur en titre de ses privilèges était Cochon. Signalons encore Jean de La Fontaine, maître S.R., juge-commissaire. Guillaume Coll et Guillaume Manchon, greffiers, notaires apostoliques à l'officialité de Rouen. Jean Massieu, huissier, prêtre, doyen rural de Rouen. Les évêques de Noyon, de Thérouanne, de Warwick. Le chapitre de Rouen, qui, à une faible majorité, il faut le reconnaître, accorda territoire à l'évêque de Beauvais. Enfin, les abbés des principaux monastères de Normandie. La plupart de ceux que je viens de nommer agissait par crainte du conseil du roi d'Angleterre. Un des membres les plus influents de ce conseil était le cardinal Henri d'Angleterre. C'est donc un fait indiscutable que Jeanne fut condamnée par autorité ecclésiastique. Mais c'est contre toute justice que certains auteurs ont attaqué l'Église, son infaillibilité et son inquisition. À l'occasion de ce crime d'hommes d'église et de tribunaux ecclésiastiques. On a rejeté sur la doctrine de l'infaillibilité de l'Église le crime des juges iniques que je viens de nommer. Écoutons M. Henri Martin. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 2 qui dit ce qui suit. Jeanne d'Arc, page 238. Retour au texte de l'abbé Jojo. Écoutons M. Henri Martin, entre guillemets. Il s'agit ici de bien autre chose que des vengeances des chefs anglais ou des bassesses de leurs serviteurs français. Nous l'avons dit, c'est ici la lutte de la tradition organisée et absolue, de la règle extérieure, de l'infaillibilité constituée contre la spontanéité individuelle, l'inspiration immédiate, la voix intérieure. Oui, certes, c'est un grand péril que l'individu assume une telle responsabilité. Mais le genre humain est fait pour avancer à travers les écueils. Oui, sans doute, il y a 1000 faux prophètes pour un vrai, mais ce vrai renouvelle le monde qui périrait étouffé sous les pouvoirs infaillibles. Fin de la citation. D'après M. Henri Martin, c'est donc à la doctrine de l'infaillibilité de l'Église qu'il faut principalement imputer la condamnation de Jeanne. Cette affirmation, d'un ton si convaincu, est complètement fausse. Quelques observations suffiront à le prouver. L'Église a établi des tribunaux pour juger ceux qui se donnaient comme inspirés, et selon le conseil de l'apôtre, pour discerner les esprits. À ces tribunaux, elle a prescrit une procédure qui écarte la plupart des chances d'erreur. Une telle conduite respirait la sagesse. D'une part, en effet, elle sauvegardait la révélation essentielle qui a été définitivement complétée par le Christ et garantissait le peuple chrétien de la séduction des faux prophètes. D'autre part, si la fragilité humaine entraînait infailliblement quelques erreurs, ces erreurs ne lésaient que les intérêts des particuliers. C'est ainsi que dans toute société, il faut des tribunaux pour faire respecter la loi, bien que les individus puissent être, de fois à autre, injustement punis par des juges nécessairement faillibles. Mais l'Église n'a jamais réclamé l'infaillibilité pour elle-même, ni pour ses tribunaux, toutes les fois qu'il s'est agi de juger les intentions d'un accusé ou l'origine de sa prétendue inspiration. Ce n'est donc nullement en vertu du dogme de l'infaillibilité de l'Église, entendu comme l'entend l'Église, que l'Inquisition a condamné Jeanne. Sans doute, les juges, dans leurs interrogatoires, ont mis en avant l'infaillibilité de l'Église, et un de leurs griefs contre l'accusé a été son refus de se soumettre à la décision qui déclarerait ces révélations fausses. Mais ils n'avaient pas le droit de faire cette supposition. Ils savaient bien dans leur âme et conscience que le pape ne condamnerait jamais les révélations de Jeanne comme diaboliques. Allons jusqu'au bout, deux points. Supposons le pape aussi lâche ou aussi aveugle que les juges de Rouen. Il exigera de Jeanne une rétractation qu'en conscience elle ne pourra donner. Qu'arrivera-t-il? Jeanne devra monter sur le bûcher. Mais sera-ce en vertu du dogme de l'infaillibilité? Nullement. Ce sera parce que le bien public exige que les jugements des autorités constituées, quoique sujets à l'erreur, soient exécutés. Ainsi, plus d'une fois, la société civile a dû punir l'innocent que ses tribunaux avaient déclaré coupable. L'infaillibilité de l'Église, je le répète, n'est pour rien dans cette affaire. L'Église ne l'a jamais réclamée en ces matières. Elle juge de la doctrine des inspirés avec infaillibilité et ne prétend pas davantage. Seulement ses tribunaux, comme tous les tribunaux du monde, doivent être par elle réputées infaillibles. Autrement, le coupable pourrait toujours échapper au coup de la justice et renverser la société que soutiennent les pouvoirs infaillibles. Quant à ce que dit M. Henri Martin, qu'un vrai prophète renouvelle le monde, cela était vrai avant le Christ. C'est pourquoi le Christ était annoncé de manière à ne pouvoir être méconnu que par les hommes de mauvaise volonté. Depuis lors, la continuelle régénération du monde est confiée à l'Église, qui est comme l'incarnation du Christ. Les révélations particulières qu'une erreur des tribunaux ecclésiastiques pourrait condamner n'auront donc jamais qu'une importance relative limitée. M. Henri Martin ajoute, qu'à Rouen, Jeanne combattit pour la liberté de la conscience humaine contre le despotisme de l'autorité ecclésiastique. C'est encore une erreur. Jeanne lutta, je l'ai montré, pour garder sa foi en la parole que Dieu lui avait miraculeusement fait entendre. Elle lutta non point contre l'autorité ecclésiastique, mais contre la haine et la lâcheté de gens d'Église qui abusèrent de l'autorité qui leur était confiée pour accomplir d'iniques projets. Quant à la calomnie que le même auteur déverse sur le clergé romain, l'accusant d'avoir voulu prononcer en dernier ressort sur l'existence de la France, elle ne mérite pas de réponse. S'il a été facile de faire justice de la première objection, il l'est moins de réfuter la seconde. Non pas qu'elle soit plus fondée en raison, mais elle l'est plus spécieuse et surtout plus répandue. Voici le résumé des attaques dirigées contre l'Inquisition à propos de la condamnation de Jeanne d'Arc. L'établissement de l'Inquisition a été la grande faute de l'Église au Moyen Âge. L'Inquisition, en effet, blessait la liberté individuelle et elle a versé des flots de sang innocent qui sont retombés sur l'Église et ils l'ont fait descendre à l'état de faiblesse où elle se trouve maintenant. Ainsi, l'Inquisition attaqua injustement Jeanne d'Arc, dans la foi qu'elle avait à ses révélations, et, en la condamnant au feu, elle attira sur l'Église l'anathème mérité de tous les siècles. Telle est l'objection présentée dans toute sa force. Je pourrais d'abord l'écarter en observant que la condamnation de Jeanne ne doit pas être imputé au Saint-Office lui-même, mais exclusivement au crime personnel des juges. Jeanne eût été infailliblement acquittée si les juges eussent suivi les règles de la procédure et obéi au dictamen de leur conscience. Quiconque a lu le procès de réhabilitation n'en saurait douter. Ce n'est donc point sur la procédure inquisitoriale qu'on a ouvertement violé en plusieurs points et torturé en mille manières durant tout le cours du procès qu'il faut rejeter la catastrophe de Rouen, mais bien sur la haine de Cochon et des Anglais et sur la lâcheté des autres. Attaquer l'Inquisition à cause de la perversité accidentelle de quelques-uns de ses fonctionnaires, c'est commettre la même faute que d'attaquer la justice d'un grand pays à cause de l'iniquité de quelques-uns de ses juges. La condamnation de Jeanne a sans doute attiré des anathèmes sur l'Église, mais ces anathèmes étaient immérités. C'est un des inconvénients de l'Inquisition d'avoir servi de prétexte aux attaques des ennemis de l'Église. Mais à défaut de ce prétexte, leur haine eût bien su en inventer d'autres. Allons maintenant au fond de la question et suivons les adversaires sur le terrain des principes, où il leur a plu de la transporter. L'établissement du Saint-Office, c'est-à-dire la recherche et le jugement des crimes contre la foi, suivi du recours aux bras séculiers pour leur répression, constitue-t-il une attaque à la liberté individuelle? Pour un vrai catholique, cette question peut à peine faire l'objet d'un doute. En effet, l'Église dirigée par l'Esprit Saint dans tout ce qui intéresse le gouvernement général du monde chrétien, l'Église, par la bouche de ses papes, de ses conciles et de ses docteurs, a approuvé et ordonné maintes fois le recours aux bras séculiers, et en particulier l'établissement et la procédure générale de l'Inquisition. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Voir l'ouvrage de M. Jules Morel à ce sujet. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Pour un vrai catholique, cette question peut à peine faire l'objet d'un doute. En effet, l'Église dirigée par l'Esprit Saint dans tout ce qui intéresse le gouvernement général du monde chrétien, l'Église, par la bouche de ses papes, de ses conciles et de ses docteurs, a approuvé et ordonné maintes fois le recours aux bras séculiers, et en particulier l'établissement de la procédure générale de l'Inquisition. Or, l'Église ne fait ni même n'approuve tacitement rien qui soit contre la justice. Mais laissons cet argument qui a peu de poids aux yeux des auteurs modernes, et considérons les choses à un autre point de vue. À l'époque où fut établie l'Inquisition, l'Église était considérée par tous et se considérait elle-même, ce qu'elle fait encore, comme l'unique source de la vérité religieuse, comme l'arche hors de laquelle il n'y a point de salut. Elle se croyait chargée de conduire tous les hommes au ciel, et par le baptême tous les individus des royaumes chrétiens devenaient ses sujets. Les sages de ce temps regardaient les peines temporelles et le secours du bras séculier comme un puissant moyen pour maintenir dans la véritable voie les sociétés et les individus. En agissant conformément à ces principes, l'Église outrepassait-elle ses droits? Attaquait-elle injustement la liberté individuelle? Évidemment non. En effet, le salut, l'obtention de la vie éternelle étant la fin dernière de l'existence humaine, la raison exige que tous les biens, les richesses, la liberté, la vie même, soient sacrifiés à ce but suprême. En punissant l'hérétique, en vertu de la mission qui lui incombe de conduire les hommes au ciel, l'Église agissait donc raisonnablement. Elle ravissait à l'individu sa liberté externe, mais pour lui donner un bien infiniment plus précieux, la gloire du paradis. Le coupable ainsi frappé n'avait pas plus le droit de se plaindre que le malheureux retiré, par une main charitable, des flots où il voulait finir ses jours. Deux droits se trouvaient en présence. Deux points. Le droit de l'individu à mal faire, si tenté qu'on puisse donner ce nom à la liberté du mal, et le droit que possède l'Église de conduire tout chrétien au port du salut, droit qu'elle tient immédiatement de Dieu. Le plus noble de ces droits devait l'emporter, et la liberté externe de l'individu ne pouvait entrer en balance avec la fin que se proposait l'Église. Mais, dira-t-on, au nom de quelle autorité l'Église prétendait-elle sauver celui qui ne le voulait pas? Dieu lui-même ne convertit pas celui qui s'y refuse absolument, et pour arriver au ciel, il faut le vouloir. L'Église n'avait donc pas le droit d'attaquer la liberté de la conscience humaine, que Dieu respecte. L'Église n'attaquait point, tant elle-même, la liberté de la conscience humaine, mais elle écartait, malgré l'individu, devenu son sujet par le baptême, tous les obstacles extérieurs qui s'opposaient au bon exercice de cette liberté, et l'entourait encore, malgré lui, de tous les moyens capables d'incliner au bien son libre arbitre. Le sanctuaire de la conscience n'était donc nullement profané. Du reste, il est inaccessible à toute violence venant du dehors. L'Église faisait pour ses enfants rebelles ce que fait un père qui n'épargne point la verge pour ramener au bien un fils égaré. En somme, l'Église usait, pour le bien de l'individu, d'un droit qu'elle croyait, à juste titre, tenir du ciel. L'individu était plus ou moins dépouillé de ses biens temporels, mais en vertu d'un droit supérieur et pour son bien. Il n'y avait donc point d'injustice commise contre sa liberté. Que de fois, au nom de ses intérêts purement temporels, l'individu ne s'est-il pas vu privé de ses droits civils et séquestré? Et cependant, personne ne s'en plaint. Le second et principal motif sur lequel s'appuyait l'Église suffit, à lui seul, pour légitimer l'établissement de l'Inquisition. L'Église instituait le Saint-Office dans des sociétés entièrement chrétiennes, c'est-à-dire formées de membres exclusivement chrétiens et constituées dans leurs principes fondamentaux d'après les lois du christianisme. Dans un pareil milieu, la présence d'un hérétique est toujours un danger. Ce danger, l'Église était obligée de le prévenir. Et elle le prévenait en livrant l'hérétique au bras séculier. Elle était dans son droit, puisqu'elle avait l'étroite obligation de détourner ses enfants des voies du mal. On n'a pas le droit de réclamer, au nom de la liberté individuelle, parce que là où commencent les droits d'autrui, cesse notre liberté. La société chrétienne avait le droit de n'être ni scandalisée, ni pervertie par la profession de l'hérésie et les autres crimes contre la foi. L'individu qui se rendait coupable d'un crime de cette espèce se mettait donc lui-même hors la loi, attaquait les principes de la société et méritait punition. On répondra peut-être que tous ces arguments supposent que la vérité est dans la seule Église catholique. En effet, la conduite de l'Église dans l'établissement de l'Inquisition repose sur cette croyance. Mais l'Église l'avait, cette croyance, comme elle l'a encore, comme elle l'aura toujours. Sa foi repose sur des raisons que les attaques des adversaires n'ont pas encore entamées. La croyance de l'Église était donc raisonnable, et sa conduite était la suite logique de sa doctrine. On fait cependant une autre objection, dont il est bon de dire un mot. La violence extérieure ne pouvait amener les résultats que se proposait l'Église. Par conséquent, les tortures de l'Inquisition étaient parfaitement inutiles. L'Église, dirigée par l'Esprit-Saint, en a jugé autrement. Les hommes les plus éclairés de cette époque ont pensé comme elle, et cela pendant des siècles. Ils connaissaient leur temps mieux que nous, et nous n'avons pas le droit de les accuser d'erreur. Des lois qui pourraient maintenant nuire à la société ont pu lui être utiles autrefois. Du reste, l'Inquisition est impossible dans les sociétés actuelles, parce que ces sociétés ne sont point assez chrétiennes et n'ont point basé leur constitution sur les principes évangéliques. En résumé, l'Église, dans l'établissement de l'Inquisition, agissait en vertu de l'autorité qu'elle croyait, à juste titre, tenir du ciel. Elle agissait en vue du bien suprême des particuliers et des sociétés. Elle n'excédait pas les limites de son pouvoir et ne lésait en rien les droits des individus. L'Inquisition a versé des flots de sang innocent. C'est là le thème des déclamations journalières des ennemis de l'Église. Mais le sage n'avance rien sans preuve, et les flots de sang innocent se réduisent, au total, à 2 ou 3 victimes innocentes. Sans doute, il faut déplorer ces lamentables accidents. Mais quel est le tribunal dont les juges n'aient jamais failli et dont les annales n'aient jamais eu à enregistrer les tristes résultats de l'erreur ou de la perversité humaine? Est-ce à l'institution qu'il faut s'en prendre du crime des particuliers? Dans le procès de Jeanne, comme dans les autres affaires qui font tache dans l'histoire de l'Inquisition, le mal ne vient point des règles établies par le Saint-Office, mais uniquement de la méchanceté des juges qui les appliquaient. Inévitablement, ce tribunal devait, de fois à autre, faillir, vu la faiblesse de l'homme. Cet homme fut-il un prêtre ou un évêque, mais pour des abus, produisant un mal passager et individuel, fallait-il désarmer la société chrétienne tout entière? Alors, il faudrait détruire tous les tribunaux, puisque tous les tribunaux sont faillibles. On dit encore que ce sang innocent est retombé sur l'Église. Oui, des écrivains hostiles ont commis l'injustice de rejeter sur le corps entier de l'Église les crimes de quelques-uns de ses membres. Ils ont dit que c'était une église de sang, mais si l'Église redoutait les calomnies de ses ennemis, elle resterait constamment dans l'inaction. Heureusement, elle s'est toujours souvenue des exemples et des paroles du Christ. Elle sait que le disciple ne sera pas traité avec plus d'égard que le maître. Le sang de l'innocent retombe sur le persécuteur, comme la calomnie sur le calomniateur. Le sang de Jeanne est retombé sur les juges qui l'ont condamné, et presque tous ont été visiblement punis de Dieu, mais il n'est point retombé sur l'Église, parce que Dieu est juste et que l'Église n'était point coupable. Quant aux anathèmes que lui jettent ses ennemis, elle les méprise. Il est encore, à propos du procès de Jeanne, une attaque à repousser. À la vue de la monstrueuse dégradation que nous révèlent les actes de ce drame funèbre, on s'est demandé d'où provenait un tel abaissement des caractères dans le clergé français de cette époque. Des auteurs malveillants ont voulu en trouver la cause dans les principes posés par les grands docteurs du XIIIe siècle et dans les subtilités de la scolastique. Ainsi, ils ont rejeté cette dégradation sur l'Église elle-même, qui avait la haute main sur les écoles. Évidemment, c'est encore là une calomnie. En effet, les études des universités de ce temps étaient, pour le fond, les mêmes que celles des écoles ecclésiastiques actuelles. Les principes n'ont pas changé, puisque ces principes sont les dogmes de la foi. S'en prendre aux subtilités de la scolastique, entre guillemets, qui avait desséché ces cœurs de savants qui ne méritaient plus le nom d'homme, fin de la citation, c'est encore une injustice. Que présente, en effet, les subtilités de la scolastique de plus abstrait, de plus desséchant que les sciences exactes, surtout si, comme le veut l'Église, on ajoute à l'étude des exercices de piété capables de raviver et de rafraîchir le cœur. Quant aux principes posés par les grands docteurs du XIIIe siècle, ils sont l'expression de la vérité. Ils n'ont pas plus contribué au martyre de Jeanne d'Arc que les principes posés par les grands juristes ne contribuent au supplice des innocents qui périssent victimes des erreurs ou des passions du juge. La source de cette perversité qui nous étonne dans les gens d'Église qui ont condamné Jeanne, n'est autre que la perversité et la faiblesse inhérente à la nature humaine, accrue par les circonstances particulières de l'époque. Il faut se rappeler qu'à ce moment, l'Église était déchirée par le grand schisme d'Occident, que la France gémissait depuis de longues années, victime de la guerre extérieure et des révoltes intestines, que ce siècle est celui des Maillotins et des Cabochiens, celui des luttes affreuses des Bourguignons et des Armagnacs, celui de l'assassinat du duc d'Orléans et de Jean sans peur. Il ne faut pas oublier non plus, pour être juste, que l'Anglais pesa de toute son autorité sur les décisions des juges, et que la peur fit chez le plus grand nombre ce qui, chez quelques-uns, était le résultat de la haine. C'est une chose triste à dire, mais incontestable, pour quiconque a lu l'histoire de ce siècle tourmenté. Les juges qui ont condamné Jeanne valaient leurs contemporains. Ils ont donc commis une grande injustice. Ceux qui se sont fait du nom de cette héroïne une arme contre l'Église. Heureusement, ils ont contribué pour leur part à faire luire la vérité sur cette belle figure, à moitié voilée jusqu'ici, et il est facile maintenant de reconnaître en elle les traits d'une inspirée et d'une sainte chrétienne. Un jour viendra, je l'espère, où l'Église couronnera Jeanne de la gloire des saints et se glorifiera ainsi elle-même dans la noble enfant qui sauva la France. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. C'est le vœu et l'espoir exprimé cette année même par M. l'abbé Freppel dans son panégyrique de Jeanne d'Arc. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Un jour viendra, je l'espère, où l'Église couronnera Jeanne de la gloire des saints et se glorifiera ainsi elle-même dans la noble enfant qui sauva la France. Fin de l'étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé.